Bienvenue dans le podcast de Devoteam Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Tout d'abord, bonjour Valentin et François, et bienvenue pour ce temps d'échange autour des HI Days, la conférence d'HiCorp qui s'est tenue donc le 4 juin dernier à Londres. Donc on va voir qu'il y a eu plein de conférences aussi en simultané, même avant, après. Mais pour l'instant, on va vraiment vous parler de celle qui s'est tenue à Londres, donc le 4 juin dernier. Et pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de nos sociétés, avec pour axe central la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons et révélons les singularités. Donc, bonjour François et Valentin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange, je l'ai dit, autour de la conférence HI Days. Donc je vous laisse vous présenter dans un premier temps.
Bonjour Eva, merci pour l'invitation. Donc, pour ma part, François d'exemple, je suis consultant cloud, je fais du dev DevOps chez Devoteam Cloud depuis presque 4 ans et également ambassadeur HiCorp, dont ma présence au HI Days le 4 juin dernier.
Merci François, bonjour, merci pour l'invitation. Valentin Bouillet, du coup, je travaille chez HiCorp en tant que Partner Solution Engineer. C'est-à-dire que je m'occupe d'animer techniquement l'écosystème de partenaires en France. J'ai rejoint HiCorp il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. Et voilà, et avant, je travaillais chez un intégrateur système. Voilà, et l'objectif, c'est de faire en sorte de construire un bel écosystème de partenaires en France.
Ok, très bien. Donc du coup, on l'a déjà un peu dit de pourquoi on se retrouve aujourd'hui autour de ce micro. C'est pour parler donc du coup de la conférence des HI Days. Si tu peux un peu nous donner du contexte, François, s'il te plaît.
Oui. Eh bien, les HI Days, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence effectivement qu'organise HiCorp tous les ans. C'est pas la conférence, la grosse conférence annuelle qui est la HiConf. Là, c'est la petite conférence qu'ils font dans plusieurs pays. Donc cette année, il y a eu Londres, Munich et Sydney. Toutes les annonces ont été faites effectivement à Londres en avant-première parce que c'était pas en même temps cette année et on a pu voir effectivement toutes les nouvelles annonces, la roadmap un peu d'HiCorp et ils sont revenus effectivement sur toutes les nouveautés qui allaient arriver.
C'est un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui du coup.
Exactement.
Bon bah du coup je te laisse démarrer.
Voilà, bah, je pense que l'annonce la plus grosse, qui avait déjà été faite un peu avant, qui a surpris pas mal de personnes, je pense que c'était l'acquisition d'HiCorp par IBM. On a quand même pas mal de questions, Valentin, à ce sujet-là. Par exemple, je ne sais pas, comment est-ce que ce rachat va influencer les produits ou la direction d'HiCorp? Quels sont les changements auxquels on doit s'attendre?
Ouais, ben ce rachat c'est quand même assez excitant, c'est une grosse étape dans l'histoire d'HiCorp. Alors après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que donc ce qui a été annoncé il y a quelques semaines, c'est cette proposition de rachat. C'est là du coup la première étape dans ce processus. Il va y avoir pas mal d'étapes encore à venir, en particulier avec l'accord des actionnaires d'HiCorp, pas mal aussi d'accords des instances de régulation, en particulier la SEC aux États-Unis. Voilà, donc c'est vraiment la première étape. L'objectif annoncé, en tout cas, c'est que l'acquisition soit effective en fait d'ici la fin de l'année 2024. Voilà, et donc on verra ensuite quelle trajectoire on prend ensemble.
Ok, donc ce qui explique que pour l'instant, effectivement, IBM, ça n'a rien changé dans votre roadmap. Dans les annonces, effectivement, on n'en a pas du tout entendu parler. Ça, c'est encore du purement HiCorp.
Ouais, tout à fait. Ben, de toute façon, tant que l'acquisition n'est pas réalisée officiellement, c'est business as usual de chacun des côtés. Il y a en fait chacun continue sa route.
Ok. Et alors du coup, dans ces HI Days, il y a eu une deuxième grosse annonce. C'était un nouveau partenariat. Enfin, vous étiez déjà partenaire, mais apparemment une nouvelle espèce de partenariat avec AWS, donc qui s'étend sur plusieurs années. Je sais plus combien d'années, 3, 4, je sais plus exactement. Mais apparemment, c'était plutôt sur un partenariat long terme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça va changer pour HiCorp? Qu'est-ce que vous allez faire? Je crois qu'aujourd'hui déjà votre infrastructure est quasiment hébergée exclusivement sur AWS. Quel est ce nouveau partenariat?
Alors oui, en fait, ce qui a été annoncé, c'est une collaboration, c'est un accord de collaboration accru avec AWS. On travaille beaucoup avec AWS, en particulier donc HCP, notre plateforme SaaS, la partie control plane qui était d'abord implémentée sur AWS. Ensuite, voilà, on peut déployer aussi, par exemple, sur du Azure des clusters Vault. Donc, on travaille de manière partagée avec les trois cloud providers. Dans cette collaboration-là spécifique, l'idée, c'est vraiment de renforcer notre partenariat et notre co-investissement pour faciliter l'expérience des développeurs et des plateformes teams. Donc, en particulier, il y a prévu la réalisation de librairies de politiques de sécurité Sentinel. Pour avoir en fait des politiques de sécurité prêtes à l'usage pour les plateformes Teams qui déploient sur AWS. Ça rentre en fait un petit peu aussi dans le cadre de l'annonce de notre nouveau modèle qu'on appelle The Infrastructure Cloud, il y a ça maintenant 2 mois. L'idée, c'est vraiment de sortir d'une approche produit et vraiment d'entrer plus sur un aspect d'intégration et de résoudre en fait les besoins des plateformes Teams. Et donc de fournir en fait le plus de services possibles et prêts à l'emploi, en particulier du coup ces politiques de sécurité AWS.
Ok, donc dans les prochains mois, on doit s'attendre à avoir des nouvelles policies Sentinel apparaître, maintenues du coup par AWS pour nos projets.
Ouais, c'est ça, co-développé par AWS, HashiCorp, et du coup prêts à l'emploi pour les équipes.
Ok, et donc du coup ces Sentinel, je crois avoir lu que ça serait pour tout ce qui va être un peu régulation. Je crois que vous avez commencé par les régulations aux États-Unis et ensuite aussi le pilar web architecturel d'AWS. Donc, ça sera des policies Sentinel qui vont nous dire est-ce qu'on respecte ou pas ces choses. On pourrait peut-être voir en France arriver, par exemple, pour le HDS, les données de santé, d'autres régulations, la RGPD, des choses comme ça. Ça va du coup sûrement arriver prochainement.
Oui, c'est ça. Les deux grands thèmes, en fait, sur cette collaboration, c'est en effet la partie architecture, c'est-à-dire avoir des politiques de sécurité, enfin, des politiques Sentinel. Qui valide ce qui est déployé actuellement sur Terraform correspond bien aux bonnes pratiques d'architecture d'AWS, en particulier quand on n'est pas sur AWS. Et puis, un deuxième pilier qui est plutôt la partie, en effet, comme tu le disais, gouvernance, conformité aux régulations, qui est un des gros avantages de Terraform Enterprise et une des raisons principales pour lesquelles nos clients utilisent Terraform Enterprise, c'est de s'assurer de la conformité de leur infrastructure avec soit leur politique de sécurité interne, soit les régulations, en particulier les régulations pour les organismes financiers, etc.
Et très brièvement, tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est Sentinel ?
Ouais, ben Sentinel, en fait, à la base, c'est un langage qui permet de traiter la logique. Donc, on met des conditions et après, on peut en fait évaluer ces conditions-là et avoir une réponse, en fait, un booléen en sortie qui est-ce que c'est true ou false ? Aussi simple que ça. Et donc, Sentinel, on l'utilise dans plusieurs produits, en particulier Terraform mais Vault aussi. Et dans Terraform, c'est utilisé pour s'assurer que, toute l'infrastructure qui est déployée est conforme à ce qu'on souhaite. Donc, on peut mettre des politiques de sécurité sur un petit peu près tout, sur s'assurer qu'il n'y ait pas, en fait, une adresse IP publique, comme, en fait, s'assurer que le ply ne peut être fait que les jours de la semaine pendant les heures ouvrées, par exemple. Donc ça permet vraiment d'apporter des garde-fous de gouvernance et s'assurer que en fait l'ensemble de ce qu'on fait, de tout ce qu'on déploie via Terraform, est conforme aux bonnes pratiques qu'on veut mettre en place.
Ok, et ça du coup c'est disponible uniquement pour la version SaaS de Terraform ou Terraform Enterprise, pas sur la version communautaire par contre.
Alors l'intégration native avec Sentinel n'est pas disponible dans la version communautaire, par contre c'est disponible dans Terraform Enterprise, la version on-prem, YAS, ouais. Et aussi dans la version SaaS. Ouais.
Ok, très bien. Et alors si on continue un peu sur Terraform et HCP, il y a eu une autre grosse annonce, enfin à mon sens, moi qui m'a marqué, je pense que surtout en France, en Europe, on va être beaucoup touché par cette annonce-là, c'est la disponibilité du coup d'HCP en Europe. Actuellement, quand on lançait, on ouvrait un projet, en fait, on ne nous demandait pas notre région, c'était forcément aux États-Unis. Avec effectivement la RGPD, ça pouvait bloquer, je pense, certaines entreprises. Et voilà, donc là, actuellement, j'ai vu, il y avait avoir 2 régions, mais alors, toujours, je crois, c'est sur l'Irlande en premier qui va être la région principale. Et par contre, toujours un backup, les bonnes pratiques, qui sera sur Francfort. Ce que peut-être quand est-ce que ça va arriver ? J'ai pu comprendre que c'était juste fermé, c'était en bêta privée un peu pour le moment. Quand est-ce que ça va arriver ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, en fait, c'est vraiment important pour nous de permettre d'offrir des alternatives localisées, donc en fait, des services qui sont régionalisés. Donc en particulier, HCP Terraform, HCP, la plateforme totale, arrive en Europe avec HCP Terraform en premier. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir de pouvoir permettre aux entreprises européennes d'utiliser la version SaaS de Terraform localisée en Europe. Voilà, donc pour toutes les en fait, que ce soit des questions de RGPD, mais au final c'est assez peu récurrent pour des sujets d'infra, mais c'est plutôt en fait des sujets de localisation de données et puis permettre aussi des fois de gagner en termes de latence et d'efficacité avec une plateforme un peu plus proche.
Ok, et donc ça c'est prêt, c'est déjà déployé, mais sur liste un peu privilégiée. Donc demain je suis une grosse entreprise, j'ai envie d'essayer, on peut vous contacter et essayer de voir ça avec vous.
Ouais, tout à fait, donc c'est déployé, c'est en limited availability, donc en disponibilité limitée pour l'instant. Donc c'est réservé en fait aux personnes qui ont ces besoins-là et qui veulent en fait tester. Et une fois que ce sera disponible en general availability, donc disponible pour tout le monde, ça sera possible en fait de le prendre directement sur la plateforme. Voilà, donc il suffit en fait de contacter HCorp, de contacter son commercial attitré si on en a déjà un. Voilà, et puis pour les partenaires, de m'envoyer un petit mail pour pouvoir tester.
Top. Et imaginons, j'ai déjà un projet sur HCP, parce que j'ai déjà utilisé, j'ai fait mon Terraform. Est-ce que je vais pouvoir facilement migrer de la version, enfin du data center US vers Europe assez facilement, ou il va falloir tout recommencer? Comment ça va se passer?
Alors ça dépend. Actuellement, en fait, il n'y a pas de migration pratique qui est mise en place. Voilà, donc en fait, mais on peut toujours prendre son code, le connecter, enfin connecter son repo de code GitHub par exemple à sa nouvelle instance HCP Terraform, faire un apply et migrer en fait tout comme ça. Mais il n'y a pas de migration disponible en tout cas pour l'instant en limited availability.
Ok. Et donc ça c'est juste pour Terraform. Je suppose que les autres outils vont pas tarder, ils vont arriver après les uns après les autres au fur et à mesure. C'est un peu la bêta avec Terraform, c'est ça?
Oui, ouais. C'est l'idée. Donc pour tout ce qui est, par exemple les clusters Vault dedicated, on peut déjà les déployer en Europe, donc sur AWS et sur Azure. Donc il y a pas de sujet de ce côté-là. Mais pour les autres services en SaaS, l'idée en fait c'est de pouvoir apporter une version européenne dans les prochains mois ou dans les prochaines années.
Ok, très intéressant, puis hâte de pouvoir tester ça et de voir ça. Je pense que effectivement ça va intéresser pas mal de personnes en Europe. Autre produit un peu mis en avant aussi, et je pense que c'est quelque chose où je me suis dit il y a beaucoup de potentiel, c'est au niveau de Packer, et plus spécialement d'HTTP Packer. Vous avez déployé, enfin vous avez annoncé les webhooks, et ça je pense que derrière, maintenant qu'il y a cette fonctionnalité là, c'est la limite, ça va être notre imagination. Ça veut dire, enfin, si j'ai bien compris, et dis-moi si je me trompe, c'est quand on va avoir fini de créer une image, par exemple, j'ai mon repo d'image, j'ai une image source dans mon entreprise, on a la base, on dit, bah, il y a une faille de sécurité dans un paquet, dans quelque chose qu'on utilise, je suis l'équipe de sécurité, je dis, bah voilà, je vais mettre à jour mon image, je peux la révoquer, ça envoie un webbook, et en fonction de comment je l'ai configuré, soit ça envoie juste une notification à toutes les équipes en disant, il y a une nouvelle version de l'image qui est disponible, ou celle-là a été révoquée, ne l'utilisez plus. Et même, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut connecter d'autres services sur HCP, comme par exemple, je pense à Terraform, et relancer automatiquement en disant, bah voilà, il y a une nouvelle, cette image-là est dépréciée, il y a une nouvelle image, je relance automatiquement, mais je sais pas, mes centaines de Terraform qui utilisent cette image automatiquement. Ça sera possible?
Ouais, c'est l'objectif. Comme tu l'as dit, les webhooks, la seule limite, c'est notre imagination. Il y a plusieurs événements dans le workflow d'HCP Packer qui permettent de lancer des webhooks. Donc voilà, moi le cas d'usage principal que je vois déjà, c'est parce que c'est un problème déjà dans mon boulot régulièrement, qui est j'utilise pas mal Packer, j'utilise HCP Packer pour du coup suivre la filiation des images, et du coup quand je fais un nouveau build, l'image précédente est pas forcément supprimée chez le cloud provider que j'ai utilisé. Donc un des premiers cas d'usage, ça sera celui-là. Ça me permettra en fait, dès que je révoque une image, de la supprimer directement dans le cloud provider, ce qui m'évitera de payer pour trop d'images qui traînent.
Et puis pas d'erreur de la part d'autres personnes qui pourraient continuer de l'utiliser si elle n'existe plus. On ne peut plus l'utiliser.
Ouais, alors après, si on utilise HCP Packer et qu'on l'intègre avec Terraform, on peut pas l'utiliser puisqu'on va aller chercher directement la dernière image du channel. Mais en effet, l'imagination est notre seule limite. Comme tu l'as dit, on peut lancer en fait un autre run Packer, par exemple, si l'image de base dont tu parlais, qui est le Linux de base de l'entreprise, par exemple, a été patché, on peut, une fois qu'il a été patché, lancer un build Packer pour l'ensemble des images qui se basent sur celle-ci, donc l'ensemble des images filles, Voilà, donc ça sera assez pratique, comme tu l'as dit aussi, par exemple, pour avertir toutes les équipes qu'il y a une faille de sécurité, qu'on a prévu la révocation de cette image dans HCP Packer d'ici 5 jours, et que donc vous avez 5 jours pour mettre à jour votre infra, quoi.
Mais c'est simple. Ils ont fait une démo, pendant Yashidice, on avait une démo où effectivement, ça envoyait un message sur le Slack de la boîte en disant, voilà, cette image-là, ce tag-là est déprécié, maintenant, enfin, utilisé, et puis il y en a une nouvelle, puis voilà.
Ouais, effectivement, tout à fait.
Ça pourrait aider peut-être la communication entre les équipes pour que ce soit plus fine, entre ceux qui vraiment créent les images, ceux qui s'occupent de l'infrastructure, de la déployer.
Ouais, et puis ça peut permettre aussi de gagner un peu de temps. Par exemple, quand on a une nouvelle image qui a été poussée dans HCP Packer, on peut avoir un webhook qui va lancer directement le workspace Terraform pour déployer l'image et faire l'ensemble des tests pour pouvoir la valider et puis la passer dans le channel staging, par exemple, ensuite. Quoi.
Ok, je pense que ça, il y aura pas mal de cas d'usage et je pense que ça me paraît très intéressant. Il y a eu d'autres annonces donc ça autour de Packer mais aussi de Terraform. Quelque chose je pense qui est pas très connu du grand public et pourtant qui existait depuis longtemps, c'était le provider AWS CC. Donc qui permet en fait qui est connecté de ce que j'ai compris en fait qui a été co-développé avec un peu Amazon qui a mis en place des API. Ça se base un peu sur le CloudFormation dont c'est très bien. Le souci actuellement et ça tout le monde a dû le rencontrer, c'est Amazon sort plein de services. Mais on doit attendre quelques temps que ce soit intégré dans le provider AWS. Soit ça va être assez rapide si le service est très utilisé, soit en fait sur des petits services un peu niches, des fois on doit attendre plusieurs années et donc du coup on se retrouve avec un peu des mutants où on fait la partie en Terraform, soit on fait ensuite via du AWS CLI pour créer la ressource manquante qu'on peut pas gérer par Terraform, soit sinon si on est un peu plus motivé on fait notre PR directement sur le provider et on attend que ce soit accepté, intégré, ou alors on refait une petite stack CloudFormation qu'on intègre dans notre Terraform. Enfin, il y a jamais d'outils de solutions parfaites. Et alors j'ai pu le tester sur un service QuickSight où en fait c'était sorti, c'était pas dans le provider normal, et il y avait ce provider là donc qui est connecté en temps réel, qui est généré automatiquement avec les API d'AWS. Et donc ça, vous l'avez annoncé que c'était maintenant disponible en version stable, qu'on pouvait l'utiliser. Donc du coup aujourd'hui on a deux providers pour AWS.
Ouais, c'est ça en fait l'idée là, comme tu l'as très bien expliqué, c'est d'avoir un provider qui est généré automatiquement à partir des API d'AWS pour avoir dès la sortie d'une nouvelle feature ou d'un nouveau service sur AWS la capacité de le provisionner et de gérer son cycle de vie avec Terraform. Donc en effet, comme c'est généré automatiquement, en général c'est un petit peu plus rude, un petit peu plus brut et il y a peut-être un petit peu moins d'optimisation de performance que ce qu'on peut avoir avec le provider en fait standard d'AWS, mais les deux vont continuer à vivre en parallèle et ça permet en fait, comme tu l'as dit, aux équipes d'utiliser les dernières fonctionnalités d'AWS via Terraform. L'objectif avec Terraform étant d'avoir un seul point central pour gérer toute l'infra. En effet, c'est un petit peu problématique si on est obligé de passer par la CLI et que du coup il y a des ressources qui sont pas gérées par Terraform.
Ok, donc là l'année prochaine, fin d'année plutôt, au AWS Reinvent, ils vont sortir de nouveaux services. Je pourrais l'intégrer directement avec ce provider. Et donc, si je comprends bien, j'attends un peu que ce soit intégré dans le vrai provider fait à la main, du coup, pour AWS. Et là, tu me recommanderais de switcher cette ressource-là ou que j'ai créée via ce provider un peu brut, via le provider un peu plus, on va dire, human-friendly.
Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. L'avantage, c'est que le provider, en fait, standard, lui, a des avantages, une optimisation aussi du provider, des services, et c'est en général, en effet, un petit peu plus user-friendly. Après, rien ne vous empêche de continuer avec le provider CC si ça vous intéresse, quoi.
Ok. Mais donc, du coup, est-ce qu'on va pas se retrouver avec que des stacks Terraform, avec que du AWS CC à terme, si on n'utilise que des nouvelles ressources? Il y aura pas de problème derrière, ce sera géré.
Non, ça pose pas de problème. C'est comme en fait.
Ça serait même fonctionnalité derrière.
Exactement. Et de toute façon, c'est comme si vous en général, dans un code Terraform, on utilise plusieurs providers. Donc, il n'y a pas de sujet, quoi.
Ok. Autour de Terraform, il y a eu une autre annonce. Vous avez annoncé des modules Terraform no code. Qu'est-ce que c'est?
Ouais, en fait, c'est pareil. C'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. L'objectif en ce moment, c'est ce qu'on a présenté avec The Infrastructure Cloud, c'est d'avoir vraiment une approche assez générale et pas par produit, et de faciliter l'intégration des différents produits entre eux pour résoudre en fait un besoin métier, un cas d'usage particulier. Et en fait, les modules no-code sont dispo depuis au final quelques temps, ou c'est en tout cas en limited availability depuis au moins 6 mois. L'idée l'idée de base, c'est de dire avec Terraform Entreprise, un des modèles de consommation, c'est d'avoir une équipe de fournisseurs et une équipe de consommateurs. Donc en fait, les fournisseurs, ça va être en général l'équipe plateforme, en lien avec l'équipe sécurité, qui vont créer des modules prêts à être utilisés et qui répondent aux politiques de sécurité de l'entreprise et aux bonnes pratiques d'architecture de l'entreprise, prêts à être utilisés par les consommateurs, qui sont en général en fait les équipes de développement applicatif. L'idée, c'est de se dire, voilà, les équipes de développement applicatif développent leur code, et ensuite, ils vont choisir un module et ils vont l'utiliser pour déployer leur infrastructure et déployer en fait leur application dessus. Si on va en fait plus loin dans le self-service, eh ben c'est de se dire ok, les équipes développeurs, elles ont peut-être pas forcément ni les compétences, ni le temps, ni l'envie d'aller mettre les mains dans du code Terraform. Donc, il faut qu'on leur facilite la tâche. Et donc, les modules no-code permettent de faciliter l'utilisation en fait des modules, tout simplement. Donc on est une équipe applicative, on développe un serveur web pour un site de e-commerce. Voilà, on a besoin en fait de mettre notre front-end, on a besoin d'une base de données derrière pour notre base client. Et ben très bien, on prend en fait le module web serveur avec base de données. On a juste à dire ben je veux déployer ça en fait en France on va dire on a trois tailles, on dit taille moyenne en disant que ça correspond à peu près la cible de marché qu'on vise. Et du coup, ben, en fait, on n'a rien d'autre à faire. Et tout a été automatisé et pré-réalisé par les équipes plateforme et sécurité derrière. L'idée, du coup, c'est vraiment d'avoir du self-service, premièrement. Et deuxièmement, en fait, de faciliter ensuite l'intégration avec les IDP, donc les Internal Developer Platform, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc avec Waypoint, qui est notre solution là-dessus.
Ok, bah, on va y revenir juste après alors. Et donc, du coup, pour continuer un peu sur HTTP Terraform, il y a également une nouvelle fonctionnalité, le HTTP Explorer. Donc ça, de ce que j'ai vu, c'est effectivement quand on déploie nos stacks Terraform, on va les déployer dans un workspace ou un projet, et en fait on va avoir un peu ce menu en fait qui va nous permettre d'explorer toutes les stacks, toutes les ressources, et de ce que j'ai compris, donc ça existait avant, mais vous avez juste ajouté un peu plus de filtres pour lire les metadata de ces différents projets, et par exemple, dis-moi si je me trompe, mais on peut voir maintenant, on peut dire, ben voilà, je veux voir tous les projets qui sont sur une version Terraform inférieur à 1.8 ou quelque chose comme ça, ou qui utilise ce module de telle version. Et donc, pour aider un peu pour la gouvernance, pour voir quel projet utilise quoi, où est-ce qu'il faut amener un peu, qu'est-ce qu'il faudrait modifier, qu'est-ce qui va pas, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. L'objectif de Terraform Entreprise, c'est vraiment d'être une plateforme centrale pour gérer le cycle de vie de l'infrastructure. Donc le cycle de vie de l'infrastructure, c'est pas seulement provisionner l'infra, mais c'est aussi gérer son évolution au cours de sa vie, et puis la déprovisionner à la fin au besoin. Et la partie Explorer de Terraform répond à ce besoin-là de visibilité sur quel est l'état de l'infrastructure de mon entreprise. Donc pas forcément en fait spécifiquement techniquement, mais plutôt en termes de gouvernance et de est-ce que j'ai des builds qui ont pas réussi? Est-ce que j'ai des projets sur lesquels les politiques de sécurité sont souvent en erreur? Est-ce que, en effet, j'ai plein de projets où la version de Terraform est assez ancienne et du coup, il faut qu'on fasse un petit travail de refactoring pour profiter des dernières fonctionnalités de Terraform? C'est tout ce genre, en fait, d'éléments qui sont pas forcément pertinent de prime abord pour les équipes plateformes, mais qui plutôt pour le management, pour tout ce qui va être gestion de l'infrastructure, toute l'équipe de gestion du département cloud en particulier, des fois aussi toute la partie administrative et financière. Un des personas auxquels on s'adresse quand on parle avec des clients, c'est le directeur administratif et financier qui a besoin en fait d'avoir de la visibilité sur quels sont les cloud providers utilisés, quel est le périmètre d'infra qui est déployé dessus, et puis pouvoir aussi flécher les différentes dépenses aux différents départements.
Ok, donc en fait, cette feature va pas forcément s'adresser aux développeurs, aux personnes qui déploient les stacks, mais plus à des personnes, des CTO, effectivement, comme tu le disais, qui vont vouloir avoir un aperçu global de comment se passent tous les projets d'un coup.
Ouais, tout à fait. Et puis ça peut aider aussi dans le cadre d'audit de conformité en particulier, parce que vous pouvez montrer que sur l'ensemble de vos workspaces, les politiques de sécurité sont appliquées et que en fait tout ce qui a été déployé est conforme. Donc en fait c'est plus un aspect de une fonctionnalité de gouvernance que technique, même si c'est des fois pratique pour récupérer en fait des petites infos rapidement sur les différents projets.
Ok. Pareil, une autre annonce qui a été faite, alors ça, je pense que c'est assez, on va dire, niche pour les personnes, on va le voir que dans certaines entreprises, c'était l'agent Terraform. Donc ça, c'est pour, ça s'adresse aux entreprises qui ont leur Git, leur VCS dans un réseau privé qui n'est pas accessible sur Internet et du coup qui était un peu bloqué jusqu'à présent quand ils voulaient utiliser Terraform. Parce que bah ils ont des règles de sécurité souvent assez brutes où on peut pas faire de flux entrant, et donc ça c'est cet agent, il s'installe dans le réseau et il va en fait communiquer du coup avec que ce soit notre GitHub entreprise, notre GitLab entreprise aussi, pour faire en fait juste, c'est ça, des flux réseau sortants vers Terraform pour pouvoir communiquer avec lui.
Alors c'est un petit peu plus large que ça. L'agent Terraform existe déjà depuis quelques temps. Voilà, donc en fait il y a deux choses avant. En tête, la première c'est si on utilise Terraform entreprise, donc on l'a déployé on-prem, en général il y a pas de problème parce qu'on est sur le même en fait réseau et donc on peut se connecter à notre VCS. Si par contre on utilise Terraform cloud, bah, en effet c'est compliqué de se connecter à son VCS qui est dans sa zone privée. Donc on peut mettre en place l'agent. En général, cet agent au préalable était déjà utilisé pour déployer de l'infrastructure et gérer de l'infrastructure on-prem. Mais en utilisant Terraform Cloud pour gérer en fait toute la partie gestion de code. Voilà. Donc cet agent était déjà utilisé comme ça. Et donc là, l'idée c'est de dire, ben, on l'utilise comme ça. On peut aussi l'utiliser dans l'autre sens pour connecter en fait Terraform Cloud à son VCS privé.
Ok. Eh bien, très intéressant. Ça, peut-être, je pense que ça va être effectivement intéressé parce qu'actuellement, ces entreprises-là étaient un peu bloquées. Elles pouvaient pas. Il n'y avait pas de solution de contournement.
Pas simple en fait, il y avait forcément des solutions de contournement, mais c'était jamais très très pratique et facile à maintenir sur le long terme. Là l'idée c'est de se dire, voilà, j'ai mon VCS qui est en interne, j'ai envie d'utiliser Terraform Cloud parce que en fait ça me permet d'avoir toutes les nouvelles fonctionnalités régulièrement sans avoir à gérer toute la partie déploiement et maintien en condition opérationnelle. Voilà, bah c'est possible, et c'est possible facilement avec l'agent Terraform.
Ok, et donc là j'ai simplement une mise à jour à faire de cet agent et ça fonctionne.
Oui, il me semble. Je suis pas certain. J'ai pas testé, mais ça doit être à peu près comme ça.
Ouais. Ok. Et j'ai vu. Je pense que ça c'est nouveau pour le coup. Cet agent, maintenant, on peut exécuter des policies Sentinel directement depuis cet agent.
Ouais. Donc ça permet en fait de faciliter la conformité, mais vraiment en restant local et sans avoir à pousser l'ensemble de son code directement vers Terraform Cloud. Enfin, HCP Terraform maintenant.
Ouais. Une autre petite nouveauté, mais ça qu'on en avait déjà entendu parler, qui avait déjà été annoncé avant, c'était les providers defined functions. Donc ça, c'est les providers AWS, GCP, Azure qui proposent en fait des fonctions adaptées à leur use case. Nous, ce que je vois sur AWS, il y a quelque chose qui permet de parser un peu l'ARN qui était toujours un peu compliqué auparavant, où c'était un peu de la magouille, on se plantait, on essayait de faire des calculs, on essayait de récupérer des briques. Souvent, on faisait un plan ou un validate, on se rendait compte que on a oublié un deux points, quelque chose comme ça, que ça marchait pas. Là, en fait, AWS du coup propose des fonctions en disant t'as ton ARN, tu veux récupérer ta région. Voilà, t'appelles ma fonction, et comme ça, plus d'erreurs. C'est ça?
Ouais, c'est ça. L'idée, pareil, c'est de faciliter en fait la vie des plateformes Teams. Voilà, personne n'a envie de passer 3 heures à essayer de faire une regex ou à essayer de découper un ARN. Donc, l'avantage, c'est de permettre aux développeurs des providers de fournir des fonctions un peu plus avancées qui permettent de faciliter la vie des utilisateurs.
Et je crois que aussi on peut faire du gain de temps sur la démo qu'on a vue là où HDICE, effectivement ils récupéraient une data source, ils avaient l'ARN, donc du coup ils faisaient une data source, donc ça veut dire que ça allait interroger AWS pour récupérer la ressource en version Terraform pour que derrière on puisse récupérer la région. Du coup maintenant plus besoin de faire cet appel, on gagne un appel, donc notre stack sera un peu plus rapide.
Ouais, c'est ça, c'est la facilité d'usage et de
c'est l'optimisation du code plus lisible du coup.
Ouais, aussi, en particulier quand on a plusieurs data sources. Et qu'il faut comprendre dans quel sens elle s'imbrique. C'est vraiment la simplification et puis rendre aussi le code plus performant.
Ouais. Ok, mais je crois que pour Terraform, on a fait à peu près le tour des annonces qui ont été faites. J'étais surpris, moi je m'attendais à autre chose. Une autre petite annonce, Terraform Stacks, il n'y a pas eu. Ou est-ce que ça a été abandonné? Peut-être si tu peux rappeler également qu'est-ce que c'était, comme ce qui a été annoncé à la Chiconf l'année dernière. Pourquoi on n'a pas eu ça?
Pourquoi? C'est une bonne question. Mais non, c'est pas abandonné. Donc Terraform Stacks, en effet, a été annoncé à la Chiconf en octobre dernier. L'idée, c'est de fournir une nouvelle manière de déployer son infrastructure, en particulier quand on a des infras qui se répètent. Donc en particulier si on a différents. Soit on déploie la même infra à quelques détails près sur différentes régions ou en fait sur différents environnements de dev, test et staging.
Le cas des landing zones.
Ouais,
le cas que tout le monde fait quasiment.
Ouais, bien sûr. Et en particulier quand on a différents en fait composants d'infra qui vont être interdépendants les uns des autres. Et donc si on utilise les workspaces actuels, on a besoin de lancer un apply sur un autre workspace, de revenir au premier pour faire un deuxième apply sur un morceau de code supplémentaire, ce qui est pas très pratique. Donc l'idée de Stax, c'était vraiment de gérer l'intégration et l'interdépendance de différents composants de manière automatique et aussi de pouvoir déployer la même infrastructure sur différents environnements juste en jouant sur quelques variables. Donc Stax est en limited availability aussi depuis quelques mois. Donc si vous êtes intéressé, il faut se rapprocher en fait du commercial JCorp qui vous est dédié si vous êtes un client ou de moi si vous êtes un partenaire. Et voilà, on peut vous donner accès pour que vous puissiez tester. Voilà, donc ça continue en fait son développement. Y a pas mal en fait de nouveautés qui sont prévues. C'est vraiment en fait une nouvelle approche pour gérer son infrastructure. Voilà, donc il y a pas mal d'investissements dessus et j'ai hâte de voir ce que ça donnera une fois que ça sera disponible publiquement.
Donc peut-être une annonce cette année en octobre où ça sortira.
On verra. Il faudra venir à Boston pour voir ça.
Ok. Eh ben écoute, on regardera ça attentivement. Pas mal aussi de nouveautés sur Vault. On sent que c'est un produit qui bouge, notamment sur la version HCP. On a vu par exemple, alors moi ce qui m'a impressionné, je me suis dit, ben là il y a un vrai cas d'usage effectivement, parce que j'ai vu ça chez un client récemment où ils avaient ça, ils n'avaient pas de Vault, mais c'était une des problématiques, c'est la rotation automatique des secrets, notamment au niveau où vous avez rajouté des partenaires où vous pouvez le faire de façon complètement automatique, notamment je pense à MongoDB, à Twilio, je crois, ça, je connais pas ce produit-là. Et donc du coup, qu'est-ce que, enfin, on met notre secret dans Vault, on fait une connexion à MongoDB, on dit à Vault, je veux que tu changes le mot de passe toutes les deux semaines ou toutes les semaines, ça le fait automatiquement.
Ouais, c'est ça. Mais alors, c'est l'objectif de Vault. Hein. L'objectif de Vault, c'est vraiment de gérer tout le cycle de vie des secrets. Donc Vault, en deux mots au départ, c'est vraiment un... Pour moi, Vault, la fonctionnalité principale de Vault, c'est pas la gestion des secrets, c'est la gestion des identités et de l'authentification. Parce qu'il y a pas mal de fournisseurs d'identité, que ce soit pour les services, ça va être l'identité des différents cloud providers, mais en fait, l'identité, le service account Kubernetes, par exemple. Voilà, pour un humain, ça va être son SSO, son compte GitHub, un mot de passe utilisateur, pourquoi pas. Voilà, mais donc... L'idée principale de Vault, c'est j'authentifie mon utilisateur, que ce soit un service ou un humain. Sur la base de cette identité-là, il a accès à des politiques de sécurité qui lui donnent accès à un ou plusieurs moteurs de secret. Voilà. Et ensuite, l'avantage, c'est d'avoir des moteurs de secret dynamiques pour réduire le temps de vie des secrets. Et donc, en fait, si jamais il y a une fuite de données ou un secret qui part dans la nature ou qui part dans GitHub ou dans GitLab, c'est pas trop grave parce qu'en fait, il avait une durée de vie de 30 secondes et donc ensuite, il est supprimé. Et donc, en fait, l'annonce sur MongoDB et Twilio, c'est l'arrivée de ces secrets dynamiques sur HCP Vault Secrets, qui est notre service SaaS de gestion des secrets, donc c'est un moteur clé-valeur basique, en tout cas c'était jusqu'à présent statique, où on avait on définissait une application, dans une application on pouvait définir plusieurs secrets et on pouvait se connecter directement à HCP Vault Secrets, ça évitait d'avoir à déployer un cluster Vault, à le configurer, etc. C'était vraiment une approche assez facile de cette gestion des secrets. Et donc là on a apporté ces moteurs dynamiques, donc en particulier pour MongoDB. Et l'idée, voilà, c'est exactement comme tu l'as dit, on connecte HCP Vault Secrets à MongoDB Atlas, je crois que c'est disponible uniquement pour Atlas actuellement. On fait les connexions entre les deux, et ensuite MongoDB va créer sur demande de Vault un utilisateur et un mot de passe à chaque fois que c'est nécessaire, et en fait faire la rotation automatique.
Donc je suppose que c'est un début, ces deux partenaires. On doit s'attendre du coup à ce que ce soit un peu plus étendu.
Bah, j'ai pas de visibilité sur la roadmap pour être totalement honnête, mais c'est ça me paraît en fait le sens des choses. C'est ce que fait Vault avec du Postgre, avec les cloud providers aussi pour récupérer des clés d'API. Voilà, donc il y a une très bonne intégration avec Terraform qui permet d'avoir une paire de clés d'API pour chaque étape du plan et de l'apply par exemple, et ça permet en fait facilement de renforcer le positionnement de sécurité de l'entreprise avec des credentials qui ont une très courte durée de vie, quoi.
Ok. Et donc du coup mon secret rotationne et moi je vois la suite après arriver, c'est ce secret ce username password de MongoDB, moi j'utilise dans ma CI/CD pour modifier ma table, enfin faire mes mutations, tout ce qu'il faut. Et là vous allez introduire également Secret Sync. Ouais. Donc, qui permet, c'est une fois que c'est mis à jour sur Vault, Vault peut aller le répliquer sur différents providers. Je crois que vous avez annoncé les AWS, Azure, GCP, GitHub, il me semble qu'il y en a un autre.
Vercel.
Et Vercel. Ouais. Où donc, du coup, Vault va aller s'occuper de mettre à jour les secrets automatiquement, instantanément, et comme ça, j'ai pas de soucis.
C'est bien ça. Ouais, c'est ça. C'est, comme j'ai dit, l'objectif de Vault, c'est de gérer le cycle de vie des secrets. Donc, la création, en particulier dans le cadre des secrets dynamiques, mais aussi la distribution, donc soit on se connecte directement à Vault et on a la bonne politique de sécurité qui permet de récupérer le secret, soit en fait en particulier dans le cas d'applications legacy, c'est pas un si grand mot que ça, quoi, parce que n'importe quelle application qui a été déployée sur le cloud avant Vault qui par exemple utilise le secret manager d'AWS nativement, l'idée c'est de dire est-ce qu'on va vraiment modifier cette application là pour l'intégrer avec Vault. Bon, c'est possible à long terme. À court terme, en fait, c'est peut-être plus simple de laisser Vault gérer le cycle de vie des mots de passe et de dire à Vault, une fois que ton mot de passe a une modification, tu le pousses directement sur AWS et comme ça, on n'a pas à modifier notre application.
Oui, c'est ça. Et puis même, je vois, il y a quand même de plus des intégrations entre services AWS où c'est bien plus facile, effectivement, d'utiliser un Secret Manager que Vault. Donc là, effectivement, on pourrait répliquer notre secret sur Secret Manager et puis ensuite utiliser les intégrations AWS natives sans problème. Même pas sans, enfin effectivement, et comme tu dis, on a une application, si on veut rajouter Vault parce que on commence à construire de nouvelles parties sur un autre provider, là en fait, on n'est pas obligé de modifier notre application, on peut rajouter Vault, on déplace effectivement la source de vérité vers Vault, qui synchronisera avec nos secrets déjà existants, et donc là, pas besoin de modifier, et ça se fait un peu tout transparent pour nous.
Ouais, exactement, c'est ça le principe, Vault va gérer le cycle de vie. Et en fait, ça va être le secret manager des cloud providers de GitHub qui va gérer la partie distribution finale du secret. Et puis, ça permet aussi, en particulier s'il y a une fuite de données, etc., qu'il y a une clé d'API, un mot de passe qui fuite, on a un seul endroit pour aller pour régler le problème et donc couper les accès. C'est dans Vault. On va révoquer le secret et il n'y a plus de problème.
Ok. Une autre annonce qui a été faite, c'est autour de la fonctionnalité qui s'appelle Vault Secret Operator, donc ça c'est plus pour Kubernetes, donc c'est vous avez changé un peu votre intégration de Vault au niveau de Kubernetes. Avant il y avait un agent qui était déployé sur chaque pod, je crois que ça posait des problèmes au niveau de la rotation du secret, si on avait un secret qui était rotationné avant sa fin de vie, qui n'était pas mis à jour instantanément sur les différents pods, donc on pouvait avoir un peu pendant un petit laps de temps des soucis de secret. Là du coup vous avez créé un nouveau process, est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que ça se fait?
Ouais, alors le Vault Secret Operator existe déjà depuis quelques temps. Là, il y a eu en fait des améliorations dessus. Voilà. Il y a trois manières principales d'intégrer Vault avec un cluster Kube. Les deux plus simples, c'est en effet d'avoir un sidecar Vault dans chacun des pods, ce qui est assez pratique parce que ça permet en fait ça s'intègre assez facilement. Voilà. Par contre, il faut gérer du coup un conteneur avec l'agent Vault dans chacun des pods. La deuxième méthode qui est la plus peut-être pratique ou en tout cas la plus native à Kube, c'est en effet ce Vault Secret Operator qui va venir faire l'intégration entre Vault et Kubernetes et qui ressemble en fait dans le fonctionnement un petit peu au Secret Sync dont on vient de parler. C'est Vault qui va gérer le cycle de vie et qui va pousser vers Kube grâce au Secret Operator les secrets. Et du coup, l'ensemble des pods va pouvoir récupérer les secrets avec l'utilisation native des secrets Kube.
Ok, et donc ça, cette fonctionnalité, elle est disponible sur la version un peu Vault communautaire. Les deux autres qu'on a parlé, c'était la rotation automatique des secrets et Secret Sync, c'était plus pour HCP, c'est ça, Vault?
Ouais, donc Secret Sync, c'est uniquement sur les versions entreprises, donc on-prem ou HCP. Et le Vault Secrets Operator, c'est une bonne question, j'en sais rien.
Ok. Et alors, est-ce que tu, enfin, je pense que les curieux de Kubernetes vont vouloir savoir, c'est comment est-ce que ce secret du coup est injecté dedans. C'est, on a l'impression que ça le récupère depuis Vault, ça injecte dans un objet secret de Kubernetes, et puis après ça le passe par le contrôleur avant d'être injecté. Ça fonctionne comme ça derrière?
Oui, en fait, bah, du coup, on intègre Vault et Kubernetes avec un service account pour Kube pour Vault, un service account Kubernetes pour Vault. Voilà. Et ensuite, c'est en effet Vault qui va aller pousser dans Kubernetes, dans le secret store de Kubernetes, les secrets, voilà. Aussi okay. Simple que ça, quoi.
Une autre annonce, alors là, c'est sur la version, si j'ai bien compris, aussi HCP, il faut bien suivre, tout n'est pas disponible sur toutes les versions, il faut bien faire attention, c'est Vault Radar, donc ça existait déjà. C'est effectivement ça permet de scanner les secrets qui sont en fait pas managés par Vault ou qu'on a mis en clair dans différentes sources, et là vous avez rajouté deux nouvelles sources, Jira et Confluence. Donc en fait, c'est, si j'ai bien compris, c'est un moteur qui va scanner nos différentes sources qu'on a connectées, et dès qu'il va détecter un secret, bah par exemple j'ai mis effectivement mon mot de passe de base de données dans ma documentation Confluence ou dans le code en dur, ça le remonte au niveau de Vault Radar et ça dit attention, là t'as un secret. Et je crois que ça va même plus loin, ça détecte aussi maintenant les secrets qui sont managés par Vault directement, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En fait, dans l'ensemble des secrets qui sont utilisés par l'entreprise, il va y en avoir une partie qui va être gérée dans Vault. Il y en aura une partie en général un peu plus petite qui sera dynamique, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, on a Vault d'un côté qui va gérer en fait une partie des secrets. Il y en a une partie qui sera dynamique en plus, donc ça sera tant mieux. Mais il y a d'autres secrets qui ne sont pas encore gérés par Vault ou qui sont gérés par Vault, mais qui sortent dans des endroits où ils ne devraient pas être là. Bon. Et donc en fait c'est là qu'intervient Vault Radar. Donc Vault Radar en fait c'est un service qui est à part de Vault. Alors forcément ça s'intègre avec Vault. Et l'idée c'est ça, comme tu l'as dit, c'est de détecter en fait dans différentes sources est-ce qu'il y a des secrets. Donc ça détecte en fait basé sur des patterns. On a plusieurs centaines de patterns de secrets différents, des clés d'API cloud, des mots de passe de base de données, etc., etc. Ça peut aussi détecter des informations personnelles. Donc en fait pour vérifier qu'il n'y ait pas d'informations personnelles qui étaient partagées quelque part où ça devrait pas, on n'en parle pas beaucoup mais c'est possible, voilà. Et l'idée en fait c'est vraiment d'apporter de la visibilité sur l'ensemble des secrets dont on n'a pas conscience parce qu'ils ne sont pas gérés par Vault, ou alors des secrets qui sont gérés par Vault et qui ont été en fait leakés ou qui sont disponibles publiquement pour pouvoir en fait les révoquer et en fait les changer. Et pour ceux en fait qui sont pas encore dans Vault, c'est pouvoir les identifier, régler le problème, donc c'est-à-dire les révoquer s'ils ont été publiés quelque part, et ensuite les intégrer dans Vault. Donc l'idée à terme, hein, c'est d'intégrer Vault Radar avec Vault pour pouvoir en fait avoir des workflows de résolution automatique de ces problèmes-là et d'injecter en fait dans Vault les secrets qui sont publics pour pouvoir en fait les gérer avec Vault et puis évidemment du coup ben les révoquer et les changer.
Effectivement, ça c'est un des plus gros problèmes, je pense, dans la sécurité aujourd'hui informatique, c'est les mots de passe qui fuitent un peu partout. Mais je me demande du coup, est-ce que Vault, il intervient pas un peu trop tard dans le process, parce que du coup le secret a déjà été leaké. C'est quoi sa plus-value par rapport, par exemple, à un outil on croise souvent en entreprise, qu'on branche sur Git, par exemple GitLeaks, qui nous bloque en fait le commit si cet outil-là détecte qu'il y a un secret dedans avant qu'on aille le mettre du coup sur le réseau. Là, Vault, lui, il intervient une fois que c'est sur réseau, donc une fois que déjà qu'il était un peu partagé partout. Quel est votre positionnement par rapport à ça?
C'est complémentaire avec les outils comme GitLeaks dont tu parles, mais aussi en fait tous les outils d'analyse de vulnérabilité dans le code, c'est forcément complémentaire. J'ai assisté hier à une présentation d'un de mes collègues justement sur Vault Radar et il a donné un chiffre, je rechercherai la source si vous voulez le mettre dans la description, qui était assez impressionnant, qui était que les codes, les clés d'API cloud qui sont disponibles publiquement sur GitHub, donc il y en a des millions, voire des milliards. Et surtout, en fait, entre 5 jours après leur première apparition, en général, ces clés d'API-là sont toujours actives. Donc en fait, le sujet, c'est il faut évidemment éviter le plus possible à la source d'avoir des fuites en fait, de ces secrets, donc avec des outils comme GitLeaks pour le code, mais aussi... Une fois en fait que le secret est affûté, il faut pouvoir en fait un le savoir, pour deux surtout le révoquer. C'est surtout ça en fait la première action à faire. Parce que bon, supprimer le commit ou supprimer le repo GitHub où il y a la clé d'API, bon, ça empêche que des gens le retrouvent. Enfin, il a déjà pu être partagé, il avait pu être enregistré quelque part. Le sujet, c'est surtout, est-ce que cette clé-là est toujours valide? Et si oui, où est-ce que je vais pour la supprimer? Et donc, l'avantage, c'est que dans Vault, on sait en fait la validité du secret. Et puis surtout, en fait, comme tout est centralisé dans Vault, et on peut en fait directement le révoquer à partir de là.
Ok, bah, très intéressant. Je pense que pour Vault, pareil, on a fait. Alors non, il y avait encore une autre annonce où, pareil, ça, j'ai pas compris ce que c'était. Vault Certificate Authority. Je crois que c'est quelque chose qui est par rapport avec de l'IoT ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, alors c'est plutôt la compatibilité avec le protocole EST pour la partie IoT. Dans le moteur PKI de Vault, Vault peut servir d'autorité de certification primaire, mais surtout en général, c'est utilisé en tant qu'autorité de certification secondaire pour en fait signer l'ensemble des certificats. Voilà, et donc on a la compatibilité avec le protocole EST qui nécessitait un intermédiaire avant et qui maintenant est facilité.
Ok, est-ce qu'on pourrait le voir un peu comme un équivalent d'AWS IoT qui gère aussi les certificats sur les machines?
Bonne question, j'en sais rien. Okay. Mais en tout cas, avec le moteur PKI de Vault, l'objectif, c'est vraiment en fait de fournir des certificats à la volée. Donc là, c'est plutôt une amélioration de ce moteur-là pour faciliter l'intégration avec ce protocole.
D'accord. Et alors une autre annonce sur un autre produit, Waypoint. Alors effectivement, je pense que ça, c'est un produit qui était très peu connu. Effectivement, je l'en avais entendu parler, j'avais pas tout compris son positionnement jusqu'à présent. Ça faisait un peu de la CI/CD. Et là, effectivement, pendant la keynote, vous avez annoncé un peu un changement de stratégie concernant cet outil, où vous avez dit, c'est pas ce que les clients voulaient. Et j'ai l'impression que vous le redirigez plus vers une plateforme de développement interne et que c'est un peu votre réponse à la hype du moment autour de ces plateformes-là. Donc du coup, vous changez complètement de stratégie, c'est ça, autour de Waypoint ?
Oui, tout à fait. En fait, le projet Waypoint a été rebooté entièrement. Enfin, il y a quelques éléments qui ont été gardés, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est exactement ce que tu as dit. C'est d'avoir une plateforme interne pour les développeurs, pour leur faciliter la vie, pour leur donner accès en self-service à l'ensemble de ce dont ils ont besoin, donc c'est-à-dire en fait l'ensemble des services qui sont gérés par les plateformes Teams, donc la partie en fait infrastructure avec les modules dont on a parlé tout à l'heure, en particulier les modules no-code, mais aussi l'intégration automatique avec du Vault pour toute la gestion de secrets, avec Boundary pour l'accès aux différentes plateformes pour du débugage ou en fait tout simplement pour accéder en fait à l'infra. Voilà, donc potentiellement du consul pour tout ce qui va être intégration dans le service mesh. L'idée, c'est vraiment d'être le point d'entrée pour les développeurs à l'ensemble des services d'infra et de sécurité.
Donc c'est en fait, vous proposez une solution un peu pour faire notre plateforme interne, en un clic, on déploie, c'est prêt.
C'est
et
ça. Voilà.
Et du coup, ça prend lien avec l'annonce qui a été faite un tout petit peu avant sur les modules no-code de Terraform.
Ouais, exactement. Exactement. Et l'idée, c'est d'automatiser ça et surtout de fournir une porte d'entrée aux développeurs pour l'ensemble, en fait, des services, qui sont gérés par les différents produits qu'on a.
D'accord. Donc demain, j'ai envie de lancer dans l'entreprise une plateforme de développeurs interne. J'ai plus besoin de la recoder. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de solutions qui existaient. Là, vous proposez un outil clé en main. Je lance. Je fais mes modules Terraform que j'ai déjà, de toute façon, en général. Mmh. Et donc, j'ai juste à les connecter à Waypoint et ensuite, je partage l'accès du coup à cette plateforme à mes différents collaborateurs en interne. Et eux, ils veulent déployer effectivement leur application front parce que c'est des développeurs JS. Ils connaissent pas derrière l'infrastructure. Ils ont juste un clic, ça déploie tout et eux, ils ont juste à donner. Peut-être, est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas si une équipe, soit effectivement, on leur donne l'accès au bucket directement sur un bucket S3 et déploie leur JS, ou est-ce que, par exemple, on peut mettre un paramètre, par exemple, une image, une AMI. On leur donne juste, eux, ils ont juste à mettre l'ID, ça déploie le serveur comme ça.
Ouais, mais en fait, ça peut aller plus loin. Ils ont juste à renseigner l'URL de leur repo GitHub, c'est tout, quoi.
Ok, ah oui,
parce qu'en fait, du coup, Waypoint va orchestrer tout ce qu'il faut derrière. Donc, lancer les pipelines de CI/CD ou s'intégrer avec eux, déployer l'infra et puis en fait, tout ce qui est nécessaire derrière. L'idée de Waypoint, c'est de faciliter la vie des développeurs, premièrement. Et deuxièmement, de fournir en fait des templates du coup prêts à l'usage qui du coup comporte tous les garde-fous qui sont nécessaires en termes d'architecture, en termes de sécurité, etc., etc.
Et puis là, c'est compliant parce que de toute façon, ça a été fait par les équipes elles-mêmes.
Voilà. Et comme en fait, ils n'ont pas la possibilité de déployer autrement, en fait, ça permet de s'assurer que tout ce qui passe par Waypoint passera par du Terraform, du Vault par exemple. C'est les premiers qui viennent en tête. Et donc, ça sera aligné avec les bonnes pratiques des équipes d'archi et de sécurité.
Et pour les équipes qui ont des besoins un peu spécifiques, je crois avoir vu aussi là, une partie add-on où on peut rajouter des add-ons directement, c'est ça, et déployer. Enfin, imaginons, effectivement, sur mon site, j'ai un cas vraiment très spécifique, j'ai besoin d'un Redis qui n'est pas proposé dans la version de base. Là, je peux rajouter des add-ons à cette stack-là directement.
Oui, en fait, comme l'ensemble de nos produits, l'idée, c'est d'être, c'est de fournir une manière d'avoir un. L'idée, c'est de fournir un workflow de base, mais d'être compatible pour s'intégrer avec d'autres outils, et puis en fait aussi pouvoir gérer les quelques exceptions de temps en temps. Quoi.
Ok, et ces add-ons, du coup, quand je lance un projet Waypoint, que je dis, voilà, je veux ce projet-là, derrière la scène, en fait, ce que l'utilisateur va voir, mais ça va créer, du coup, je suppose, un projet potentiellement Terraform, ça va déployer notre module dedans, et si j'ajoute un add-on, en fait, ça va rajouter une autre stack dans ce projet-là, ça va tout déployer, ça va connecter les deux.
Oui, en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire toute cette interconnexion. Alors après, derrière, comment est-ce que ça va se découper en termes de workflow, de workspace Terraform ou de stack? À voir, ça, du coup, ça se paramètre en fonction des besoins, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'être d'orchestrer pour le développeur l'ensemble de ses besoins d'infra.
Ok. Et imaginons, en tant qu'utilisateur, je déploie du coup cette stack là, mais j'ai quand même un peu de connaissances en Terraform et je veux faire une modification. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai accès à la stack pour modifier, je sais pas, ou rajouter simplement une petite ressource directement dans la stack, ou ça sera pas du tout possible?
Honnêtement, j'ai pas de réponse directe. De ma compréhension des choses, l'objectif c'est que ça ne soit pas possible tel quel. Voilà, il y a toujours en fait la possibilité de. Mais l'idée de Waypoint, c'est vraiment en fait de s'appuyer sur ces modules-là. Et donc c'est plutôt peut-être quelque chose à intégrer dans les modules à la base et de dire potentiellement vous avez l'option de rajouter telle ou telle ressource.
Ok. Et alors, il y a encore eu d'autres annonces, notamment autour de Nomad. Nomad, est-ce que tu pourrais rappeler un peu le positionnement de ce produit? Parce que j'ai l'impression, du coup, vous le présentez comme un outil d'orchestration. Mais pour moi, aujourd'hui, quand on parle d'orchestration, il n'y a pas 10 000 questions qui se posent. Tout le monde va sur Kubernetes. Quel est Nomad? Qu'est-ce que c'est par rapport à Kubernetes? Est-ce que ça répond aux mêmes besoins? Est-ce que ça se positionne sur un autre secteur? Qu'est-ce que ça fait?
Ouais, bien sûr. Kubernetes, c'est un orchestrateur, mais c'est surtout... il faut surtout finir la phrase, c'est un orchestrateur de workload. Donc ça va permettre d'orchestrer plusieurs tâches, plusieurs en fait scripts, mais aussi des exécutifs, des exécutables pardon, des conteneurs aussi. Mais l'objectif, c'est vraiment de gérer deux choses, l'orchestration en fait d'une workload, d'une tâche à réaliser, et aussi sa répartition sur différents nœuds. Donc ça se pose pas Nomad ne se présente pas en tant que concurrent direct de Kubernetes. C'est plutôt un outil qui permet de gérer l'exécution et la répartition sur plusieurs nœuds de différentes tâches qui sont de plus ou moins longue durée et qui dépassent en fait la partie containerisation. Donc il y a un cas d'usage assez courant qui est la partie modernisation applicative, où on a des scripts ou des batchs qui tournent régulièrement sur une machine qui en général est oubliée au fin fond d'une salle serveur et on veut pouvoir avoir un petit peu plus de flexibilité sur et surtout de visibilité sur quand est-ce qu'on l'exécute, qui l'exécute, où est-ce que ça s'exécute. Donc on peut utiliser Nomad en fait pour redéployer ces applications là un petit peu anciennes mais tout en ayant tous les avantages d'un orchestrateur moderne sur cette partie orchestration. Voilà.
D'accord. Et est-ce que tu peux du coup nous parler un peu plus des annonces autour de ce produit? Parce que pour le coup, je suis pas non plus forcément un expert de Nomad. Et...
Ouais, les annonces principales, c'est surtout sur l'amélioration de l'intégration avec Consul et Vault. Voilà, il y avait quelques petits points qui étaient pas forcément très simples au préalable. Et donc là, en fait, on a vraiment facilité l'intégration, en particulier dans tout ce qui est la partie service mesh de Consul. Et toute la partie gestion des tokens et renouvellement des tokens pour les jobs Vault.
Ok. Donc là, en fait, vous agrandissez encore un peu l'écosystème HCP, j'ai l'impression. Et alors, en vrai, quand on regarde toutes les annonces, effectivement, on a l'impression que vous tournez beaucoup. Enfin, beaucoup d'annonces, beaucoup de nouveautés ont été faites autour des versions effectivement proposées par HCP, les versions SaaS et pas les versions communautaires. Est-ce que ça veut dire que du coup, les versions communautaires, vous les considérez à peu près maintenant comme stables et que voilà, elles sont fonctionnelles, tout vous utilisez. Il y a eu quelques annonces quand même un peu de fonctionnalités qui étaient demandées, mais une grosse majorité, c'est autour du coup maintenant de votre plateforme cloud ou on-premise. Qu'est-ce que ça signifie
Alors, en effet, il y a pas mal d'annonces autour de la plateforme cloud parce que les solutions SaaS sont extrêmement demandées, alors particulièrement aux États-Unis. En Europe, effectivement, maintenant qu'on va avoir une version européenne d'HCP, il y aura peut-être un petit peu plus de demandes avec la localisation des données. Mais il y a en effet un gros attrait pour les versions SaaS. Donc, c'est sûr que c'est une priorité pour nous. Et en particulier, ça permet en fait de tester des nouvelles fonctionnalités sur les versions SaaS, valider en fait leur fonctionnement, etc. Voilà. Et ensuite, potentiellement, de rajouter ces fonctionnalités dans la version entreprise. En général, il y a peut-être un mois et demi de différence entre le moment où une fonctionnalité est disponible sur la version SaaS et sur la version entreprise, qui est donc installable on-prem. Voilà. Après, sur la partie, sur nos versions communautaires, on a une approche qui est assez claire sur le sujet. C'est que, en fait, on a des projets communautaires et on a des produits d'entreprise. Donc, ça répond pas aux mêmes besoins. Donc les projets communautaires en général c'est des outils donc qui vont répondre à un besoin technique. Terraform par exemple, la version communautaire répond au besoin technique qui est de faciliter la description de mon infrastructure et son déploiement, bon, quel que soit le cloud provider. La version entreprise de nos produits, eux, s'adressent vraiment aux entreprises justement qui ont des besoins qui dépassent le cadre technique de l'outil. Donc, en particulier, des besoins de gouvernance, de conformité. On en a parlé tout à l'heure avec Sentinel, avec Terraform Explorer. Et aussi des besoins en termes de déploiement et en termes de stabilité. C'est en particulier le cas pour Vault, par exemple, qui a des fonctionnalités. Vault Entreprise a une fonctionnalité qui s'appelle Autopilot, qui permet de faciliter le déploiement et la vie du cluster. Donc, il y a aussi toute la partie disaster recovery, performance replica, etc. Voilà, donc c'est des fonctionnalités en fait qui permettent d'assurer aux entreprises la réponse en fait à leurs besoins métiers, un peu plus business, un peu plus de gouvernance, de conformité, et deuxièmement de stabilité aussi du déploiement du produit, voilà, qui est pas juste un petit binaire Go qui tourne dans un coin sur une petite VM.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un changement effectivement avec toutes ces nouveautés. Avant, effectivement, quand une entreprise voulait démarrer un projet, elle allait partir automatiquement un peu sur la version communautaire et en se disant une fois que j'aurai grossi, ça sera intéressant pour moi de passer sur la version cloud peut-être pour avoir tous ces outils de gouvernance. J'ai l'impression que maintenant, dès le jour zéro en fait, ça vaut le coup pour une entreprise d'aller sur la version un peu cloud parce qu'il y a des apports en fait avec toutes ces petites nouveautés en plus. En fait, on peut les utiliser et je pense que c'est bien plus facile ensuite à mettre en place que de changer. J'ai l'impression que le Swift de passer de la version communautaire à cloud, en fait, se fait pas quand même aussi aisément qu'on pouvait le penser. Et en fait, on reconstruit un peu ce que propose Terraform, enfin HashiCorp en tout cas, sur tous les outils.
Ouais, bien sûr. Voilà, c'est en effet un petit peu ce qui se passait avant. Voilà, le passage de la version communautaire à la version entreprise n'est pas si compliqué que ça, à partir du moment où on reste dans les limites de la version communautaire. Quand on commence, en effet, comme tu le dis, à essayer de reconstruire, de réinventer la roue et nous, c'est ce qu'on appelle un petit peu tout ce qui est scaffolding, donc des échafaudages autour pour ajouter des fonctionnalités, en effet, dans le cadre de la migration, ça devient un petit peu plus compliqué par la suite. Par contre, c'est vrai que l'avantage des solutions SaaS, en particulier, c'est que ça permet de commencer facilement sans en fait trop dépenser non plus. Terraform Cloud, on peut utiliser la version gratuite qui est évidemment limitée dans certaines fonctionnalités, mais on a des policies de sécurité, on a des policies set, on a jusqu'à 500 ressources qui sont disponibles et on peut utiliser ça gratuitement pour voir en fait est-ce que ça répond vraiment à mon besoin. Alors mon besoin métier, mon besoin technique en général, lui ça le fait parce que on connaît déjà Terraform, on a déjà en fait notre infra qui est terraformé, donc la résolution du problème technique et a déjà été faite. La question, c'est, j'ai plusieurs équipes qui collaborent, comment est-ce que je fais pour avoir aussi de la visibilité sur toute mon infra, sur la gouvernance, etc. Et donc ça, les versions entreprises apportent ces solutions-là de manière assez simple, et ça permet aussi d'avoir, avec les solutions SaaS, les dernières nouveautés rapidement, sans avoir à gérer tout le déploiement et la maintenance derrière.
Ok. Et en prenant un aspect un peu plus critique, j'ai l'impression aussi que c'est une stratégie en fait d'HashiCorp pour montrer un peu la puissance de leur écosystème face, par exemple, au fork qu'on peut trouver de la Linux Foundation qui s'appelle OpenTofu. Parce que il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites sur HCP qui auraient pu être faites, je pense, techniquement sur la version communautaire. Est-ce que c'est dans ce but-là aussi?
En fait, le sujet, c'est surtout de dire que l'ensemble de nos produits répondent en fait à des besoins particuliers. On a beaucoup en fait d'investissements dans les échanges avec nos clients sur les différentes fonctionnalités, sur quelles sont les fonctionnalités pertinentes et surtout comment les implémenter, parce qu'il y a en fait plusieurs manières d'implémenter une même fonctionnalité. Et voilà, donc ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et donc c'est en général, on commence par les versions SaaS, parce que si on déploie une fonctionnalité qui est pas utilisée, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer le développement, quoi? Est-ce que ça répond à un véritable besoin chez nos clients, quoi?
D'accord. Très bien. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions de toutes ces annonces-là. Je sais pas si j'en ai oublié certaines. Valentin ?
Non, il y a eu quelques annonces sur Boundary aussi, qui est un très beau produit, qui apporte vraiment une nouvelle vision du Privileged Access Management, une vision moderne, cloud native, qui permet en fait de faciliter le passage à l'échelle. On a quelques nouveautés là-dessus pour faciliter l'utilisation de la solution. Et des trucs assez intéressants à venir. Je sais que en tant qu'ambassadeur, t'as eu un petit teasing là-dessus. C'est...
Ouais, on verra ça, je pense, pour la HiConf où ça va arriver. Effectivement, Boundary, c'est un produit qu'on voit pas beaucoup. Personnellement, je l'ai jamais vu dans aucune entreprise où j'ai travaillé.
Pour l'instant.
Pour l'instant, ça va arriver, peut-être avec le multi-cloud. Bon. On va voir. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. En vrai, c'était très intéressant de pouvoir rebondir un peu à chaud sur toutes ces annonces-là, pour pouvoir un peu plus creuser. Et puis, y en a certaines qui sont déjà disponibles, du coup. Enfin, même, je pense, une grosse moitié est déjà disponible pour tout le monde. Et puis les autres, soit effectivement on est partenaire ou une entreprise, on peut vous contacter peut-être si on a un besoin très spécifique, qu'on est intéressé pour les avoir, pour pouvoir essayer un peu en avant-première.
Ouais.
Et puis sinon, ça va arriver très prochainement.
Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment super. Et oui, de toute façon, tout ce qui a été annoncé au HI Days, c'est soit en fait disponible publiquement, soit en disponibilité limitée. Mais si vous avez un contact chez HiCorp, vous pouvez lui en parler, ou puis vous mettez un petit message sur le site et on reviendra vers vous.
Merci beaucoup, François et Valentin. C'était un podcast hyper passionnant et très exhaustif, j'ai l'impression. Et effectivement, on mettra en description, donc si tu as quelques liens pour nos auditeurs et auditrices. Et en attendant, on vous dit à très bientôt sur les podcasts de Devoteam Revolve. Merci beaucoup.
Merci Eva.
Merci.